Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Pour qu'il s'est manifesté pour nous. Et nous ne comprenons pas. Et nous ne pouvons pas comprendre pourquoi tu as voulu tellement nous aimer. Nous qui sommes si petits, si fragiles, si éphémères. Tu nous as aimés, Seigneur, malgré notre rébellion, malgré notre orgueil, malgré, Seigneur, que nous t'avons rejeté. Tu nous as aimés quand même, alors que nous n'étions pas aimables. Mais Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Maintenant, tu veux que nous grandissions. Grandissions dans la connaissance de ta parole. Que nous grandissions, Seigneur, éclairés par ta lumière, afin que nous soyons de plus en plus à ton image. Ô Jésus, ne te lasse pas, Seigneur. Ne te lasse pas, Seigneur. Nous sommes lents à apprendre. Mais ta patience est pour nous salut. Merci pour ta patience. Seigneur, encore maintenant, encore à cette heure, enseigne-nous des choses qui vont nous aider à grandir, aider à mieux comprendre. Aide-nous, Seigneur, afin que nous rentrions dans le saint lieu. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Parle-nous, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Depuis déjà passablement de temps, nous avons parlé de la loi et de la grâce, et nous avons beaucoup appris. Et depuis quelques semaines, nous essayons de sonder quelque peu l'Écriture dans ces 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple. Et depuis déjà 3 dimanches, nous sommes sur ce 8e commandement. Tu ne voleras pas. 3 fois, nous avons parlé sur ce commandement, tu ne commettras pas adultère. Et maintenant, aujourd'hui, la 4e fois, et je pense que là, nous allons clôturer ce commandement pour passer au suivant. Nous allons encore parler sur ce commandement, tu ne voleras pas. Il est étonnant comme dans peu de paroles de la parole de Dieu, de la Bible, nous pouvons trouver tant de richesses, tant de connaissances, tant d'enseignements. Pour nous qui avons besoin de connaître sa parole et de grandir à cette lumière. Frères et sœurs, mettez la parole en pratique, lisez-la, connaissez-la, et qu'elle soit pour vous le guide de votre vie, la lumière qui vous éclaire dans les ténèbres. Nous allons lire ce matin dans le livre du Lévitique, Lévitique au chapitre 19. À partir du verset 9. Lévitique chapitre 19, verset 9. Dieu a donné ses instructions. Et toute la parole de Dieu est remplie d'instructions, est remplie d'ordonnances que Dieu adresse à son peuple et adresse à son peuple jusqu'à aujourd'hui, afin qu'il devienne héritier du pays de la promesse. Ce pays de la promesse appartient à Dieu. Il n'appartient pas aux hommes. Il y a eu d'abord l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, les choses étaient matérielles. Mais elles étaient une représentation des choses spirituelles. Et nous ne pouvons pas lire que le Nouveau Testament. Il nous faut lire aussi l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, nous le donnons aux jeunes convertis pour qu'ils le lisent et qu'ils basent sa foi sur le sacrifice de Jésus qu'il a tant aimé. Mais il ne faut pas oublier la dimension de l'Ancien Testament, car ces deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, se complètent l'un l'autre. L'Ancien est incomplet sans le Nouveau. Le Nouveau est incomplet sans l'Ancien. Ils se complètent l'un l'autre. Et là, nous avons des enseignements pour nous, dans notre vie aujourd'hui, à nous. Hommes et femmes des derniers temps, Église des derniers temps, car notre Maître revient bientôt. À nous qui avons plus de connaissances et plus de révélations que tous les autres dans le passé, qui n'avaient que l'Ancien Testament. et qui n'avait que l'ombre des choses à venir. Combien de fois, il nous a dit, les prophètes de l'Ancien Testament ont voulu plonger leur regard dans le plan de Dieu et savoir, car ils sentaient et ils pressentaient quelque chose de différent qui allait venir. Mais ils ne l'ont pas connu. Ceci ne leur a pas été révélé. Jusqu'en notre temps. Car la révélation de l'Ancien Testament dans les choses matérielles telles qu'elles étaient faites était une révélation incomplète, mais était une image, un symbole de ce qui allait venir et qui s'accomplirait dans la personne de Jésus-Christ. Ceci veut dire que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'instructions de grande valeur que Dieu a données à son peuple à travers tous les âges et auxquelles nous ferions bien de prêter attention. Il y a des principes que si nous les appliquions dans notre société d'aujourd'hui, notre société ne serait pas dans la dérive morale, dérive spirituelle et adorateur des idoles plutôt que de Dieu. Nous lisons donc dans l'Évangile, dans le livre du Lévitique, chapitre 19, où il est dit, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol, et vous n'userez ni de tromperie, ni de fausseté, chacun envers son compatriote. Envers son compatriote. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras pas ton prochain, et tu ne déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un sourd, et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. Mais tu auras la crainte de l'Éternel, ton Dieu, je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre, et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand. Mais tu jugeras ton compatriote, selon la justice. On pourrait continuer notre lecture, et la continue encore. Mais qui va me dire que ces instructions ne sont pas actuelles? Qui oserait me dire que cette parole est périmée? Si pour vous elle est périmée, c'est que vous êtes des gens sans morale, sans principe, sans fondement, des anarchiques, qui allait directement à la perdition, qui ne respectait ni Dieu ni les hommes. Mais nous savons que dans toute société qui se respecte, dans toute société organisée et équilibrée, il y a des principes, il y a une marche à suivre, il y a des choses que nous devons respecter si nous voulons vivre dans l'harmonie et dans la paix. Nous nous étonnons de ce que nous soyons dans tant de souffrances, tant de malheurs, au milieu d'un pays si riche et si béni. Mais cette bénédiction, nous lui crachons dessus, parce que nous ne faisons rien pour obéir aux principes mêmes de toute société qui se respecte. Tout n'est que théorie, car les théories, nous les avons. Car les codes de loi, nous les avons. Par les gros livres épais, avec tous les principes de base, nous les avons. Mais nous les piétinons et nous nous occupons pas de ces choses en cherchant à les détourner ou à les déformer en notre faveur, alors que nous sommes condamnables dans notre action. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup pleurent dans notre pays. Elles sont dans le désarroi. Dans ces quelques versets que nous avons lus, et il y en a bien d'autres encore, Dieu donne des instructions très, très pertinentes à son peuple, car il voulait que son peuple soit un peuple qui soit dans l'équilibre. Lorsque nous lisons tous ces principes, des fois nous pensons que c'est un peu assommant, entre guillemets, de lire tous ces principes, tous ces enseignements, toutes ces règles qu'il donne là. Mais croyez-moi, Dieu n'a jamais donné des règlements et des principes à ses enfants et à son peuple pour les ennuyer. Et quand il a dit qu'il était inconvenant et qu'il était mal de manger certaines nourritures, c'était certainement pas pour les ennuyer. Mais il y avait un principe de base. Je veux un peuple saint d'esprit et de corps. Et il a défendu de manger bien de ces animaux que nous consommons allègrement aujourd'hui. Simplement, et ceci est reconnu par la science, pour que l'homme soit fort physiquement, qu'il résiste aux maladies. Ce n'est plus aujourd'hui, lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance, une question de vie et de mort, non. Vous voulez en manger? Mangez. Vous voulez faire ce que vous voulez? Vous le faites. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous mangeons ou ne mangeons pas, nous buvons ou nous ne buvons pas, mais nous sommes sauvés à cause du sang de Jésus-Christ versé sur la croix de Golgotha, de l'agneau sans tache qui a donné sa vie pour nous. Mais ces principes sont toujours une valeur, et rien de ce que Dieu a dit est sans valeur. Tous ces animaux dont il a interdit que nous mangions, eh bien, la plupart d'entre eux, ce sont des mangeurs de poubelles. Des mangeurs de poubelles. Les cochons, regardez ça. Vous voulez ça dans votre assiette? Quand je vois des gens qui mangent des pieds de cochon, s'ils avaient vu où marche le cochon. Bon, vous êtes libre de le faire. Hein? Et quand vous me recevez chez vous et que vous me présentez du cochon, je ne vais rien dire et je vais le manger. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. C'est une question de santé. Je parle du cochon, mais combien d'autres, ces silures, ont été créés? Vous savez les poissons à moustache qu'on voit dans le fleuve? Tout le monde en mange, on les fume et on les mange, moi j'en ai mangé aussi. Mais ce sont des mangeurs de poubelles. Dieu a préparé ces poissons-là pour qu'ils nagent dans le fond et qu'ils nettoient le fond du fleuve contre la pollution. Dieu a tout prévu. Il a fait des ramasseurs de poubelles naturelles. Et nous voulons les mettre dans notre assiette. Et il est reconnu par la médecine que la plupart de ces animaux ont des éléments nuisibles à l'homme. Nuisibles. Bon, je ne suis pas là pour faire un cours, mais simplement pour vous dire que lorsque Dieu a parlé, il a parlé. Et nous ferions bien de faire attention à ce qu'il a dit. Chaque fois qu'il dit quelque chose, il rappelle, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. N'oubliez pas qui parle. N'oubliez pas qui donne le commandement. Je suis l'Éternel. Nous allons lire encore un passage qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 14, à partir du verset 27. Où Dieu donne encore des principes que nous allons toucher aujourd'hui. Et où il dit, tu ne délaisseras pas le Lévite qui résidera avec toi, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Le Lévite, c'était celui qui était consacré au culte de l'Éternel, qui faisait les sacrifices. Les sacrificateurs et les lévites, tous ceux attachés au culte de l'Éternel. Dieu a dit, Ceux-là me servent. Moi, je suis leur héritage. Ils n'ont pas de droit à un héritage quelconque. Ils n'ont pas le droit de posséder des terres. Ils n'ont pas le droit de posséder des maisons. Je suis leur héritage. Oh, c'est quelque chose qu'on devrait rappeler aujourd'hui. Combien d'hommes qui se disent hommes de Dieu ne cherchent pas encore plutôt à accumuler leur héritage avec tous les biens de ce monde? Pourquoi est-ce que Dieu a dit « Je ne veux pas qu'ils aient un héritage parmi vous » Parce que je ne veux pas que ces hommes qui me servent soient distraits par autre chose, par le gain, par les affaires, qui mènent une double vie, si je puis dire. C'est vous, peuple d'Israël, qui devez leur donner ce qui leur est nécessaire pour vivre. Alors, tu ne délaisseras pas le Lévite qui réside avec toi, car il n'a ni partage ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toutes les dîmes de tes produits pendant cette 3e année, et tu la déposeras là où tu résides. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigrant c'est l'étranger, celui qui a quitté son pays et qui a immigré dans ton pays, qui essaye d'être admis là, qui essaye de faire quelque chose là, qui entend qu'il y a la bénédiction là et qu'il y a la prospérité, et qui est dans ses besoins, il vient là pour chercher une petite place et se faire une place, mais au départ, il n'a rien. Et il essaye et il se bat pour rétablir quelque chose. Dieu dit, souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui, c'est ton frère. Souviens-toi de l'orphelin, de la veuve qui réside avec toi. Ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre que tu entreprendras de tes mains. Ah! Arrêtez de me dire, oh, pasteur, mes affaires ne marchent pas. Pasteur, si vous voulez prier pour moi, rien ne marche, rien ne marche, rien ne marche. Mes véhicules tombent en panne. Ceux qui me doivent de l'argent ne me payent pas. Rien ne marche, rien ne marche. Pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi. Même moi, je ne suis pas un féticheur ou un sorcier. Je n'ai pas une baguette magique pour vous faire marcher vos affaires. Je n'ai pas une prière spéciale pour faire marcher vos affaires. Mettez-vous en règle avec Dieu. Écoutez, mes frères, il y a une grande différence entre un homme qui se dit un homme de Dieu et un homme qui est un homme du monde qui ne s'inquiète pas de Dieu. Vous allez voir, l'homme du monde, il va progresser, il va grandir, il va s'enrichir et tout ça. Il est mesquin, il est râteau. Il est méchant, il est voleur et il prospère. Toi, tu dis, je sers l'Éternel, je sers le Seigneur. Bon, maintenant, il y a une autre règle pour toi. Lui, Dieu le laisse faire ce qu'il veut, car il n'est pas son maître, c'est Satan qui est son maître. Et il s'en va à la perdition éternelle. Mais toi, non. Toi, non. Que dit la parole de Dieu? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ah, voilà ce qu'il dit. Et il ne le dit pas aux païens, il le dit à ses enfants. Recherchez le royaume des cieux et sa justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est transparent, tout ce qui est pur, tout ce qui est tractation normale, tout ce qui doit être approuvé par Dieu et qui est approuvé par Dieu quand on agit comme Dieu veut qu'on agisse. Sa justice, la justice du royaume des cieux, c'est de faire toutes les tractations, quelles qu'elles soient, commerciales ou autres, selon la loi, selon les règlements, selon la justice, selon la vérité, et non pas avec les mensonges. Et alors Dieu dit, je te ferai prospérer. Je te bénirai. Je te bénirai. Tu veux être béni? Eh bien voilà. afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que tu accompliras de tes mains, de tes mains, de tes mains, de tes mains. Ses mains, elles vont compter les billets. Ses mains, elles vont conduire la voiture. Ses mains, elles vont bâtir la maison. Ses mains, elles vont faire tout ce que l'intelligence vont leur commander, ces mains-là. Dieu veut bénir ses mains et l'œuvre de tes mains lorsque tu cherches d'abord le royaume des cieux et sa justice. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui est crédible, tout ce qui est transparent, tu le fais. Peut-être qu'au départ, tout le monde se moque de toi parce que tu pourrais gagner beaucoup plus si tu faisais comme eux. Non, tu n'appartiens pas à eux. Tu appartiens à lui. Et quand le temps passe et que tu gardes ton témoignage, tu vas voir ce qu'il va faire avec toi. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas te le dire. Mais toi, tu le dis, tu le sais, parce que c'est écrit là. Je te ferai prospérer. Je te ferai prospérer. Frères et sœurs, ne dites pas que nous ne croyons pas à la prospérité. Nous y croyons. Mais nous y croyons dans la mesure où nous remplissons la condition. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Dieu sera plus exigeant avec toi qu'avec le païen. Car Dieu connaît sa fin. Sa fin est terrible. Mais toi, ta fin, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, efforce-toi de vivre comme Dieu le veut. Et recherche d'abord son royaume. Il y a beaucoup d'instructions dans cette parole. Dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans les 5 premiers livres de Moïse, qu'on appelle le Pentateuch, vous avez des lois du cérémonial, du culte. Et ces lois devaient refléter les réalités de Dieu, sa sainteté, sa gloire, sa justice, sa puissance, et qui devait refléter les choses spirituelles et les choses célestes. Beaucoup qui exerçaient ce culte, qui nous semble assez compliqué avec tous ces règlements, ne réalisaient pas exactement ce qu'ils faisaient. Mais avec le temps et la révélation que nous avons en Jésus-Christ, nous voyons et nous apercevons le modèle extraordinaire que Dieu a voulu donner d'abord dans le monde matériel des choses spirituelles. Il devait offrir un sacrifice pour le péché, des holocaustes, des brebis, des agneaux. Il devait offrir des bœufs. Il devait offrir des béliers, des taureaux, des vaches. Ça devait être des animaux parfaits, sans aucun défaut. Le meilleur. Le meilleur. Mais tout cela n'était qu'un symbole de ce qui allait venir. Et toutes ces lois, lorsque vous étudiez ces livres de Moïse, vous verrez qu'il y a un symbole d'une dimension spirituelle, merveilleuse, extraordinaire, qui nous sont révélées à nous qui vivons dans les derniers temps. Beaucoup de ces lois ou commandements ont trouvé leur réalité et leur accomplissement en Jésus-Christ. Mais il y avait en plus de cela des lois morales, et des lois spirituelles dans ces 5 premiers livres de Moïse. Et ces lois morales n'ont pas perdu leur force malgré les siècles qui ont passé. Elles n'ont pas perdu leur autorité, ces lois morales. Elles sont pleinement valables jusqu'à aujourd'hui. Elles n'ont en rien varié. Ces lois morales sont valables. Il n'y a rien à adapter. Du reste, toutes les lois des nations aujourd'hui ont leur base là dans le Saint-Livre. Ce sont des lois qui ont été imprimées dans la conscience même des hommes. Qui est-ce qui nous a dit qu'il est mal de tuer, mal de voler, mal de commettre adultère? N'est-ce pas la loi de la conscience qui est la loi de Dieu qui est imprimée dans notre cœur? Nous n'offrons plus de sacrifice d'agneau pour le péché, car Jésus est l'agneau de Dieu qui a été offert pour nos péchés. Et ce n'était qu'une image prophétique de celui qui allait venir, Jésus le Sauveur. Il allait venir afin de mourir pour le monde entier. Il est mort pour tous les hommes, afin que tous les hommes, quels qu'ils soient, soient sauvés. Le plus grand pécheur le plus terrible, le plus dégoûtant, le plus criminel, il est sauvé par le sacrifice de Christ. Reste à lui de se repentir. Reste à lui d'accepter. Reste à lui de reconnaître son péché. Le plus grand pécheur, comme celui qui n'a que peu péché, devant Dieu, ils sont les mêmes. Car celui qui a violé un seul commandement est violateur de tous les commandements. Il n'y a pas de meilleur et il n'y en a pas de pire. Nous sommes tous condamnés, mais sauvés par grâce, par l'agneau de Dieu qui s'est offert pour nous à Golgotha. Il a ôté les péchés du monde entier. Tous ces sacrifices n'était qu'une image prophétique de celui qui viendrait. Mais toutes ces lois morales ont gardé toute leur valeur et leur autorité jusqu'à ce jour. Elles sont imprimées dans notre conscience. Ne rejetez pas l'Ancien Testament, soi-disant que c'est trop compliqué à comprendre. Si vous le lisez et vous le relisez, plus vous lirez, plus vous comprendrez. Et vous comprendrez la grande sagesse de Dieu. L'Ancien Testament, c'était des choses physiques, des choses qui se faisaient avec la main selon un certain rite, avec une signification. Mais nous sommes sous une meilleure alliance en Jésus-Christ, une meilleure alliance avec une dimension spirituelle. Dieu doit contrôler nos biens. Je dis tout cela pour vous dire que ces lois que nous venons de lire, ces commandements que nous venons de lire, ont leur valeur jusqu'à aujourd'hui, et que Dieu doit contrôler nos biens. Si Dieu contrôle nos biens, il ne peut y avoir de vol. Car nous réaliserons alors que rien ne nous appartient, que tout est à Dieu. Quoique riche, quoique puissant, quoique étant des millionnaires peut-être, nous ne sommes que des gérants. À l'un, Dieu a donné beaucoup. À un autre, Dieu a donné peu. Dieu redemandera en retour selon la mesure qu'il nous a donnée. Tu as beaucoup reçu, il te sera beaucoup redemandé. Tu as peu reçu, il te sera peu redemandé. Mais il te sera redemandé quelque chose en proportion de ce que tu as reçu. Rien n'est à nous, tout est à Dieu. Et vient de Dieu. C'est pour cela qu'Israël, qu'en Israël, il y avait une législation qui défendait le pauvre et le faible. Dieu était propriétaire de tout et il a mis des limites pour l'accumulation des biens personnels. Et c'est ce que nous avons lu en quelques versets dans les Deutéronomes. Et dans le Lévitique. Écoutez-moi, mes frères, est-ce normal, dites-moi, est-ce normal qu'un homme accumule des biens à ne plus savoir qu'en faire et qu'à côté, on manque du plus nécessaire, de la plus nécessaire des choses, qui est comme la nourriture ou le vêtement? On a faim, on est dans le besoin. Et à côté, on exagère, on accumule et on cherche encore à accumuler et on gaspille ce que l'on a. Je me souviens, il y a quelques années de cela, bien des années en arrière, avant, Je connaissais quelqu'un qui avait été invité à voir un grand homme très riche, qui avait autorité, lors d'une réception qu'il donnait à sa résidence. Et tout le monde devait venir à 16 heures. Or, cette personne que je connaissais était amie avec le fils de ce grand monsieur, amie avec son fils. Elle désirait venir un peu avant pour parler avec lui, parce que quand tout le monde est là, eh bien, c'est plus la même chose. Alors, il est venu, disons, à peu près une heure avant l'heure fixée de la réception. Il rentre, et lorsqu'il rentre, il voit toute une quantité de voitures dans le parking. Oh, il dit, peut-être, je suis en retard. Et quand le fils arrive, il lui dit, mais je m'excuse, moi, je croyais que l'heure était 16 heures et je vois qu'il y a déjà du monde ici à voir toutes les voitures. Alors, le fils, il commence à rigoler. Non, il n'y a encore personne, ce sont les voitures de mon père. 14 voitures. Les voitures qui coûtent. L'ensemble faisait plusieurs millions. Enfin, d'une monnaie que vous connaissez. L'accumulation, encore. Et pourtant, on ne peut conduire et avoir entre les mains qu'une voiture à la fois, c'est pas vrai? La cupidité, posséder, avoir, il y en a beaucoup qui voudraient avoir au moins une de ces voitures, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais très bien que mon frère Bomboko serait tout content d'avoir une belle voiture, bien confortable, plutôt que sa vieille Jeep qui a passé combien de kilomètres déjà. Quant à Kazadi, il n'en a même pas. Il y a Noé qui en a une belle de voiture. Mais enfin, tout ce qu'il désire avoir, c'est un moteur qui marche là-dessous et qui tire les roues, c'est pas vrai? Si vous voyez la voiture de Noé, c'est vraiment dans le cadre des taxis congolais. En tout cas, je lui fais de la publicité avec sa voiture. Hier, je faisais des promenades dans le quartier pour faire des exercices. Et je rencontre mon Noé. J'ai cru d'abord que c'était un vieux taxi. Ça grince, ça saute, ça... Et il me dit comme ça, avec un grand sourire, « Oui, je viens du garage !» Enfin, il y a un moteur qui pousse les roues de derrière. Et il y a des sièges qui vous empêchent de tomber à travers. Mais il y en a d'autres qui accumulent, et qui accumulent, et qui n'ont jamais assez, alors qu'à côté d'eux, il y en a qui sont dans la misère. Il m'est arrivé de rentrer dans les maisons de quelques-uns de ces grands chefs du passé. Bon, ben, l'armoire de monsieur, oh, c'est une grande armoire, je vous assure. Peut-être pas, elle n'est pas seule, il y en a 3 ou 4 penderies avec des quantités de costumes, ça je vous assure. Des costumes qu'on appelait d'un certain nom à l'époque. Et puis, quant à madame, elle a encore plus d'armoires. Combien de robes? Combien de pagnes? Combien de paires de chaussures? Des centaines de paires de chaussures. Il faut que le pagne aille avec la paire de chaussures. Il faut que le sac à main soit avec la paire de chaussures. Il y a vert, il y a orange, il y a bleu, il y a mauve, il y a tout cela. Et il faut tout que ça soit, en tout cas, impeccable. Donc, il en faut beaucoup. Donc, on en met plein. Mais alors, si vous regardez les employés de ces gens, vous verrez le pauvre petit sentinelle, maigre comme tout. Il a des espèces de claquettes qu'il retient avec des fils de fer. Il a des habits en lambeaux. Il est la plupart du temps sous-payé quand il est payé. Et on pense qu'on a tout fait parce qu'on lui donne à manger. Cupidité et vol de la dignité de l'autre. voit le mépris de la dignité de son frère, de son frère, de son frère. Je ne dis pas qu'il faille donner aux pauvres et en faire un paresseux. Que ce soit dit encore en passant, car nous devons tirer des leçons de ces choses-là. Combien de fois n'ai-je pas vu ces gens qui débordent d'argent? Ils ont plein de mendiants qui leur courent derrière. Ils sortent d'un magasin plein de mendiants. Ils sortent de la voiture plein de mendiants. Avec un geste très supérieur, on sort les billets pour donner aux pauvres mendiants qui tombent à genoux et qui remercient. Ça fait honte! Ça fait honte! Moi, ça me casse le cœur chaque fois. Où est la dignité humaine? Je ne veux pas dire que ce mendiant n'en a pas besoin. Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas faire le geste. Mais la façon dont on fait le geste, attention. Que faisons-nous de la dignité humaine? Ce mendiant qui n'a rien, il est prêt à se jeter à plat ventre devant toi pour recevoir cet argent. Mais non, mon frère, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est un homme qui a besoin de manger. C'est un homme qui a besoin d'un vêtement comme toi. Oh, vous savez, des fois, en parcourant les rues de nos villes, et en regardant, on apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Évidemment, ma couleur n'est pas tellement commode. Pourquoi? Parce que cette couleur crie déjà, il y a de l'argent. Et ceci devient un problème, bien souvent, pour les gens qui sont des visages pâles. Dieu m'a fait comme cela. Je ne sais pas pourquoi, il l'a voulu. Et en même temps, il m'a fait vivre toute ma vie au milieu de gens qui n'ont pas le visage pâle. Quand je marche des fois dans la rue, à gauche, à droite, les gens me voient passer, ils disent « Amundele, Amundele ». Moi, je réponds « Amwindu, Amwindu ». Ah ben oui, ils me disent « Mundele ». Moi, j'ai le droit de leur dire « Mwindu », non? Et dès qu'on me voit, quand je marche comme ça, je fais souvent le tour du quartier, etc., je m'arrête aux petites boutiques, alors comment ça va? Alors on pose des questions et tout ça. Et c'est régulièrement. Mandele, pesa bongo. Aïe, aïe, aïe. Cette couleur-là, elle coûte cher, vous savez. Alors moi, souvent, je parle du Seigneur. Je parle de Jésus. En tout cas, je peux vous dire une chose. J'admire le peuple congolais. Je l'admire. Au milieu de sa pauvreté, il a un moral extraordinaire. Nous passons dans la rue, nous marchons, on n'a rien à craindre. Tout le monde est gentil, parle. Ah, tu te promènes, ah, Mandele, l'autre jour, j'étais là sur la route, un jeune homme s'est mis à côté de moi, il a marché avec moi, on a parlé tout du long. On ne voit pas ça partout, je vous assure. Vous les voyez sur des camions en ruine qui fument de partout, l'huile coule au moteur partout. Vous voyez le boy mécanicien, la boy chauffeur qui est là dans ses haillons. Il se tient avec un gros bout de bois pour mettre sous les roues dès qu'il s'arrête parce que les freins, ma foi. Et puis quand le camion marche, il saute dessus en se pendant et il monte. Et une fois dans la caisse, il se met à chanter. Admirable. Admirable. Il y a des valeurs dans votre pays. Est-ce que vous savez les voir? Et cet homme-là, dans ses haillons, c'est ton frère. Ce mendiant-là qui est au bord de la route, c'est ton frère. Cette femme qui est là, dans son désespoir, qui cherche à nourrir ses enfants, c'est ta sœur. Et toi, tu gaspilles l'argent. Essaye de boire moins de coca. Je ne parle pas de bière parce que c'est une autre chose, hein. Mais essaye de boire moins de coca. Et chaque coca que tu bois pas, mets l'argent de côté pour donner à un pauvre. Bois de l'eau. C'est meilleur pour ta santé. Tu te détraques la santé avec les coca et les fanta et tout ce que vous voulez. Essaye de supprimer quelque chose que tu as, que tu jouis tous les jours. Et mets cet argent de côté pour aider celui qui n'a rien. Toi, tu gaspilles, lui n'a rien. Est-ce normal? Je ne veux pas dire qu'on doit donner aux pauvres et faire du pauvre un paresseux dépendant. Non. Et c'est là où nous devons comprendre l'équilibre. Dieu ne nous appelle pas à donner à tous les pauvres qui sont là, à tous les pauvres qui sont là. Non. Mais le riche, celui qui possède, peut trouver 1000 moyens pour aider le pauvre à céder lui-même. Vous voyez? À céder lui-même. Prenez un pauvre que vous connaissez en affection, par exemple. Visitez sa famille, voyez de quel genre il est, parce qu'il y a des faux pauvres aussi. Faites votre petite enquête et après essayez à le sortir du trou. En l'enseignant de faire quelque chose, en investissant quelques petites sommes sur lui pour qu'il fasse quelque chose, et vous surveillez et vous essayez de le sortir du trou. Certaines fois, ils sont irrécupérables, je le sais. Mais au milieu de la misère de notre pays, c'est un scandale de voir l'étalage et l'orgueil de ceux qui ont et qui ne veulent rien donner. Dieu a prévu cela. C'est pourquoi il y avait la part du pauvre dans toutes les productions de la terre. C'est ce que nous avons lu dans Lévitique chapitre 19. Pense aux besoins du pauvre. Laisse quelque chose derrière toi pour lui. Quelque chose de superflu pour toi. Quelque chose de ton abondance pour son besoin. Quelque chose que tu n'utilises pas, que tu peux lui donner. Même cette vieille paire de chaussures, tu les as beaucoup portées. On peut encore les porter, mais tu peux très bien t'en débarrasser. Il n'a rien. Les glanures étaient pour les pauvres. Vous savez que dans les pays où on plante le blé, l'orge, les céréales, ce sont des grandes herbes hautes comme ça. Et au bout de la tige, vous avez l'épi. Et quand c'est la moisson, les moissonneurs venaient, aujourd'hui tout est mécanisé, mais ils venaient avec la faucille, un couteau comme cela en cercle. Ils prenaient la gerbe au pied, ils coupaient. Et derrière eux, il y avait les autres serviteurs qui ramassaient et mettaient en gerbe des gros paquets comme cela, les liaient avec une corde et continuaient à mesure que les autres coupaient. Mais évidemment, il y avait toujours des tiges qui tombaient ici et là. Il y avait toujours des tiges qui étaient restées là, avec leur épi, qui n'étaient pas dans la gerbe. Dieu dit, ne prends pas ces glanures, ça s'appelle des glanures. Ne les prends pas, c'est pour le pauvre. Et Dieu disait aussi, quand tu moissonnes ton champ et que tu coupes, laisse le coin de ton champ pour les pauvres. Ne le coupe pas pour toi. Voilà les instructions de Dieu. Elles ont leur valeur jusqu'à aujourd'hui. Mais trop souvent, nous ne pensons pas aux besoins du pauvre. Et nous ne lui laissons rien derrière lui. Et c'est là que nous voyons la belle histoire. Et là, c'est une parenthèse que j'aimerais faire. Mais elle est tellement belle que j'aimerais la faire. La belle histoire de Ruth, la Moabite. Il y avait cette famille d'Israël qui avait fui Israël à cause de la famine. La maman, le papa et les deux petits garçons. Ils sont allés dans le pays de Moab. Ils ont établi leur vie là-bas. Les garçons ont grandi. Ils se sont mariés avec des filles moabites. Mais voilà, la maladie est venue dans la famille. D'abord, le papa est mort. Puis ensuite, les deux garçons sont morts. Et ils ont laissé que des veuves derrière. Oh la tristesse, tristesse, oh le malheur. Et Naomi, la femme de cet homme, de cet Israélite, n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Mais l'une de ses belles filles, Ruth, a dit, j'irai là où tu iras. Je t'accompagnerai. Ton peuple sera mon peuple. Elle était une étrangère en Israël. Elle est venue en Israël, elle a travaillé pour sa belle-mère. Et comme ils avaient perdu leur héritage, perdu leur terre, à cause des dettes, à cause de toutes sortes de problèmes, ils étaient là des pauvres et des malheureux. Et elle, avec courage, elle est allée dans les champs pour glaner. Elle savait qu'il resterait quelque chose et que l'Éternel avait dit, vous n'en prendrez pas les glanures. Il y a quelque chose pour moi. Et Dieu l'a conduite dans le champ d'un grand riche du nom de Boaz qui avait des terres riches. Elle a travaillé parce qu'elle avait en tête les besoins de sa belle-mère. Oh, l'amour du prochain. Sous le soleil. Et Boaz, quand il est venu, elle a dit, de qui est cette jeune personne qui est en train de glaner là? Ses serviteurs lui expliquèrent et lui dirent, c'est la belle-fille de Naomi qui est venue, qui a tout perdu et qui est dans la pauvreté. Laissez-la boire de l'eau de nos cruches. Laissez-la manger de la nourriture des serviteurs. Et tirez un peu des épis qui sont dans les gerbes. Laissez-les afin qu'elle ne soit pas dans le besoin. Dieu avait préparé la route. Pour faire l'histoire courte, Boaz la maria. Elle devint sa femme. Une femme moabite, mes frères. Et vous savez qui était Moab? Moab avait été maudit par l'Éternel lorsque les Israélites sont rentrés dans le pays. Parce que le roi de Moab avait soudoyé Balaam, le prophète intéressé par l'argent et les biens et les honneurs, pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Mais l'Éternel s'est tenu contre lui. Il n'a pas pu maudire, il était obligé de bénir. Et quand le roi de Moab a vu cela, il a dit, « Faut que je les aie. La meilleure façon que je les aie, je vais les avoir par la chair. » Et il a envoyé, il a organisé une grande fête pour Israël. Et il a envoyé toutes les jeunes filles les plus belles du pays afin qu'elles séduisent les jeunes gens en Israël. Et la colère de Dieu était terrible, car dans tout le camp, il y en a qui couchaient avec des filles de Moab. Et il savait qu'en faisant ceci, la malédiction tomberait sur Israël. Et à cause de cela, des milliers de jeunes Israélites sont morts sous la condamnation de Dieu. Et Dieu a maudit Moab. N'est-ce pas extraordinaire que cette jeune femme moabite est rentrée dans la famille d'Israël. Elle a marié Boaz. Et ils ont donné naissance à Obed, qui est le père d'Isaïe, père de David, dans la descendance directe du Messie. Alléluia. Et j'aimerais vous rappeler aussi pour Rahab. Vous vous souvenez quand les enfants d'Israël arrivaient devant Jéricho, Josué a envoyé des hommes pour explorer le pays. Et le roi de Jéricho l'a appris. Et ces hommes ont trouvé refuge chez Rahab, la prostituée, qui avait sa maison sur la muraille de Jéricho. Et cette femme a cru dans le Dieu d'Israël, avant même de l'avoir vu, et d'avoir vu le peuple. Car elle avait entendu ce qui se passait avec ce Dieu qui avait ouvert la mer Rouge devant le peuple d'Israël. Elle a caché les espions. Elle les a fait fuir sur une certaine piste. Et quand on est venu chez elle pour les chercher, elle a dit, oh, ils sont déjà sortis. Elle a envoyé ses hommes sur une autre direction. À cause de cela, elle a eu la vie sauve. Elle est rentrée dans la communauté d'Israël. Un homme d'Israël qui s'appelle Salmon l'a mariée. Et Salmon est le père de Boaz. Vous voyez, mes frères? Dieu ne rejette personne. Même celui qui est maudit à cause de ses actions, de celui que Dieu a rejeté à cause de ses actions, ils sont, lorsqu'ils ont accepté le Messie, rentrés dans la famille du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Oh, merveille, merveille de la grâce et de la puissance de Dieu. Oui, la porte est ouverte à quiconque croit jusqu'à aujourd'hui. Dieu avait ordonné que tous les 7 ans, la 7e année serait une année sabbatique. La terre devait se reposer cette année-là. Et tout ce qui sortait de la terre devait être pour le pauvre. Tous les 7 ans, chacun était supposé de faire ses réserves. Parce que la 7e année, personne n'allait planter. Vous m'entendez? Personne. On devait laisser la terre se reposer, se renouveler. Et ceci est valable. Tous ceux qui font de l'agriculture, ils le savent. Laisser la terre en jachère, comme on dit. Laisser la terre se reposer. Et Dieu a dit, tout ce qui poussera, car des graines sont restées, quelques parties de racines de plantes, de pommes de terre ou d'ignames sont restées et ça va repartir. Dieu a dit, tout ce qui sortira à ce moment-là sera pour le pauvre, pour l'immigrant et pour les animaux qui sont dans le champ. Exode 23, verset 10-11. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en cueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Dieu pense même aux bêtes des champs. Nous y pensons jamais, c'est pas vrai? De même pour les vendanges. Lorsqu'on cueille le raisin et qu'on le met dans des grands paniers et qu'on l'apporte au pressoir pour le presser et en sortir le jus, souvent, on manque une grappe ici, une grappe là. Des raisins qui tombent sur le sol. Dieu dit, tu laisses tout cela. Ça, c'est pour le pauvre et pour le malheureux. Tous les 50 ans, il y avait l'année du jubilé. Quand toutes les dettes étaient annulées. Ouh là là, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça ici. Hein? Toutes les dettes étaient annulées. Tous les esclaves étaient libérés. Et toutes les terres étaient retournées à leur propriétaire d'origine. Mais oui, un homme a dû vendre sa terre parce qu'il a des dettes. Il ne s'en sort plus. Il est dans des problèmes. Un grand riche va lui acheter sa terre. Il peut exploiter la terre. Peut-être même celui auquel il doit de l'argent. Il ne peut pas payer. Alors, il cède sa terre à cet homme-là. Dieu dit, d'accord. Tu fais valoir cette terre, tu vas regagner ton argent. Mais après 50 ans, cette terre revient à l'origine. Voilà la loi de Dieu. Peut-être que ceci est arrivé 5 ans avant les 50 ans. Il pourra exploiter la terre pendant 5 ans. Après ça, elle retournera à l'homme qui en est le propriétaire. Peut-être quelqu'un s'est vendu en esclavage. Il doit une grosse somme. Il ne peut pas payer. Alors il va vers celui auquel il doit cet argent, et lui dit, je suis prêt à te servir, à être ton esclave, en paiement de ma dette. Et il va servir. Dieu dit, d'accord, mais à l'année du jubilé, cet homme doit être libre. Ce sera peut-être après 7 ans, après 8 ans. Je suis sûr que ceux qui commençaient une telle tractation, après que l'année des 50 ans venait de passer, il leur restait 50 ans à servir. Ça, c'était dur. Mais Dieu ne veut pas qu'il y ait l'exploitation du prochain. Ceci empêche, Dieu a fait cela, parce que ceci empêche l'accumulation exagérée des biens personnels. Et la possibilité aux pauvres et à celui qui s'est vendu pour payer ses dettes d'être libre. La raison de ce réajustement de l'économie était la déclaration de Dieu dans Lévitique 25-23. La terre ne se vendra pas à titre définitif. Car le pays est à moi. Vous êtes tous chez moi comme immigrants et comme résidents temporaires. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des passagers, des immigrants et résidents temporaires. Le nombre de nos années nous est compté. Dieu nous fait gérants de ses biens. Rien n'est à nous, tout est à lui. Arrêtons de dire, cette voiture est à moi, cette maison est à moi, ce terrain est à moi, cette affaire est à moi. Ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Et il te le donne de le gérer. De le gérer pour sa gloire, de le gérer pour ton bien, le bien de ta famille et le bien des autres. Alors, tu auras la bénédiction de Dieu sur toi. Si tu prends de ce qui est à l'autre pour en jouir égoïstement, sans laisser la part du pauvre, Dieu t'oubliera alors. Nous sommes des passagers sur la terre. Ecclésiaste 5,14. Comme il est sorti du sein maternel, il s'en retourne nu, comme il était venu. Il n'emportera rien de sa peine qu'il puisse emmener dans sa main. Ah, nu tu es venu, nu tu partiras. Donc, rien n'est à toi. Rien. C'est simplement un dépôt que Dieu te donne pour faire valoir pour sa gloire. Et dans ce dépôt, il y a une part qui est à pour le pauvre et une part qui est pour Dieu. Nous avons remarqué que le commandement « Tu ne voleras point » suit immédiatement celui qui dit « Tu ne commettras pas adultère ». Nous avons vu que l'adultère est de l'infidélité envers l'alliance contractée avec sa femme ou avec son mari. De l'infidélité. Un homme infidèle est un voleur de ce qui appartient à sa femme. Une femme mariée qui est infidèle vole de ce qui appartient à son mari pour le donner à un autre. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, tu appartiens à ta femme. Ne vole pas, tu ne voleras point. Ni le pauvre, ni le nécessiteux, ni tes obligations. Et tu ne voleras point ce qui appartient à ta femme ou ce qui appartient à ton mari. Celui qui prend ce qui appartient à sa femme pour le donner à une autre femme devient un voleur. Et cette femme qui prend ce qui appartient à une autre femme, elle est une voleuse. C'est la raison pour laquelle ces deux commandements se suivent l'un l'autre, car ils n'en font qu'un tout. Toi, ma femme, tu m'appartiens. Tu es ma propriété exclusive. Et toi, mari, tu appartiens à ta femme et tu es sa propriété exclusive. Réciprocité entière. Vous n'avez pas droit sur votre propre corps comme vous appartenant à vous-même. Non. Dans 1 Corinthiens 7, 4, il est dit, « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Réciprocité dans l'égalité. Si tu prends de ce qui est à ta femme pour le donner à un autre ou à une autre, tu es un voleur. C'est la raison supplémentaire qui nous fait voir que la polygamie n'est pas compatible avec ceux qui sont sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Dans Hébreux 8, 6, il est dit, « Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. » Nous sommes dans une alliance meilleure par rapport à l'ancienne, forcément. L'ancienne était bonne, la nouvelle est meilleure. Si la polygamie a été tolérée dans l'ancienne alliance, elle ne l'est plus dans la nouvelle alliance, où Jésus est venu rétablir toutes choses Nous en avons parlé largement déjà et ça a fait passablement de remous dans la ville. Mais cette parole ne peut être changée, mes frères. Et dans cette nouvelle alliance, nous avons la pleine et entière révélation de la volonté de Dieu à notre égard, nous, héritiers de la nouvelle alliance. Un polygame considère que ses femmes sont à lui. Il les a achetées. Mais il ne considère pas qu'il appartient à ses femmes. N'est-il pas vrai? C'est lui le maître. Il veut faire de sa personne ce qu'il veut et décide par lui-même, pour lui-même, selon sa propre volonté, en tant que seul décideur, seul monarque. Et ces femmes n'ont pas de droit. Ils volent, car cet homme est un voleur. Ils volent à ces femmes le bonheur auquel elles ont droit. Ils volent à ces femmes le droit à une famille normale. Ils volent à ces femmes le droit d'avoir un mari pour elles toutes seules. Quelle est la femme qui veut partager son mari avec une autre femme? Qu'elle lève la main. Je suis sérieux. Je n'ai jamais vu une femme, même polygame, qui est heureuse dans sa situation de polygamie et qui est heureuse de partager son mari avec une autre femme. Non, mes frères. Ils volent à ces femmes leur dignité. Elles sont des esclaves du mâle dominant. Ils leur volent leur dignité et leur liberté. Tout ce qu'il reste à ces femmes, c'est de faire encore des enfants, et toujours des enfants, rien que des enfants. Voilà. Eh bien, ça, c'est une honte. La femme n'est pas une esclave. Et je le dirai, et je le dirai encore. Qu'attendez-vous, femmes, pour résister à ces dominateurs, à ces dictateurs, qui ne pensent qu'à satisfaire leurs passions et leurs désirs? Changez de femme tous les 2-3 jours, si ce n'est pas tous les jours. Ce sont des obsédés sexuels. Tu lui dois. Tu ne voleras pas à ton mari ce que tu lui dois pour le donner à un autre ou à une autre. Tu ne voleras pas la jeunesse, la dignité, l'honneur, le respect de ta fille en la vendant à cet homme corrompu qui a déjà plusieurs femmes et qui t'offre pour elle des avantages de toutes sortes et de l'argent. Ta fille n'est pas à vendre au profit du plus offrant. Y a-t-il des voleurs ici? Je sais qu'il y en a. Il y en a encore qui ont 2-3 femmes qu'ils cachent bien quelque part dans différentes maisons. Il ne faut surtout pas que ces femmes se rencontrent. Ça sera les tonnerres et l'éclair. Alors il court ici, il court là, et il court là. La femme suppose, mais elle ne sait pas. Elle pleure dans son coin. Il y a des femmes qui pleurent et qui pleurent et qui pleurent. Et le mari orgueilleux qu'il est, je suis libre de faire ce que je veux. Non, tu n'es pas libre. Tu es déjà lié. Tu es déjà lié. Ne sois pas un insensé. Il y en a ici même qui ont eu des enfants, et ces enfants ont grandi. Mais depuis longtemps, cette femme, elle est abandonnée. Elle est aussi déjà dans l'église, j'en connais quelques-unes. Et leurs fils qui est grand sont là aussi. Et eux-mêmes, ils en ont eu après cela combien d'autres? Maintenant, ils deviennent vieux, alors ils n'ont qu'une femme. Moi, j'ai qu'une femme. Menteur et hypocrite. Non, frères et sœurs, disons ce qu'il faut dire, afin que les consciences soient ébranlées. Je suis fatigué de voir des gens qui viennent dimanche après dimanche et je sais très bien comment ils vivent. Je sais très bien dans quel état ils sont. Mais il reste toujours la même chose. Je ne vais pas aller vers toi pour te secouer. Ça suffit que tu sois secoué quand je prêche ici. Et si tu ne veux pas écouter cette parole, Comment vas-tu m'écouter quand moi je vais te parler? Quand? Comment? Cette parole ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Ce que nous voulons, c'est une église saine, des hommes et des femmes qui se repentent. Il y en a qui sont là et jamais ils ont pleuré, jamais ils nous ont demandé pardon. Leur vie maintenant est plus ou moins correcte, d'accord, mais jamais ils ont demandé pardon, jamais. Dieu ne pardonne que quand on demande pardon. Mais si on ne demande pas pardon, frères et sœurs, d'où viendra le pardon? D'où viendra le pardon? Ne soyez pas des égoïstes qui ne pensent qu'à vous satisfaire de cette chose. Car votre femme, ce n'est qu'une chose qui est là à côté de vous pour vous faire plaisir. Non à la polygamie, c'est à vous, femme, de prendre une position là contre. Il n'y a pas une femme que je n'ai jamais rencontrée qui était heureuse dans la polygamie. Alors pourquoi continuer? Refusez-vous, femme, vous allez me dire, oui, mais la coutume, oui, mais la coutume. La coutume? Alors vous n'appartenez plus au royaume des cieux si vous êtes encore dans la coutume. Il y a plein de choses que nous faisons dans la coutume qui sont mal, qui sont mauvaises, que nous devons abandonner si nous sommes enfants de Dieu, enfants du royaume. Nous n'écoutons plus la coutume, même si c'est le coco du village qui vient nous dire et qui veut nous mettre sous le joug de la coutume. Toi, jeune fille, tu dis non. Toi, jeune homme, tu dis non. Et tu rejettes ces choses dégradantes. Tu es une personne très valable aux yeux de Dieu, d'une grande valeur. Il est mort pour toi. Tu es un joyau, tu es une perle, tu es un diamant. Alors ne laisse pas ce diamant entre les mains des voleurs. Tu ne voleras point. Tu payeras tes dettes aussi. Tu rendras l'argent que tu as emprunté. Si tu ne le fais pas, tu es coupable de vol. Et là, nous touchons quelque chose dans lequel beaucoup, 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 beaucoup s'y trouvent. Dans le livre du prophète Habacouc, au chapitre 2, au verset 6, il est dit « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. » Voilà ce qu'il dit. « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. » Ses dettes, cet emprunt que tu rembourses jamais, ces dettes que tu continues et que tu amasses. Dieu dit « Malheur !» Et ensuite le prophète dit « Jusqu'à quand ?» Il y a des points de suspension. Jusqu'à quand tu vas continuer comme cela? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Aïe, 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 vous devez de l'argent, sortez de là, sortez de là, sortez de là, le plus vite possible. Car pour vous, il y a un malheur qui vient. Il y en a qui, même quand ils ont l'argent pour rembourser l'argent qu'ils doivent, ils ne veulent pas rembourser leurs dettes. Ils sont des voleurs qui dépouillent leurs prochains. Tu as emprunté aux riches une somme d'argent, tu dois cette somme d'argent à ce riche. Combien d'hommes et de femmes sont venus à travers toutes mes années ici au Congo? Pasteur, vous ne pouvez pas me prêter telle somme, telle autre somme. C'est lui qui a dit, prêtez, ce n'est pas moi. Alors je lui prête la somme. Mais si je voulais faire l'addition, il y aurait une grosse somme, croyez-moi. Très peu sont venus rembourser ce qu'ils ont emprunté. Très peu. Je me souviens d'une certaine personne qui était dans le désespoir. Elle était ici, elle n'est plus là. Qui vient me dire, ah, pasteur, il faut me débloquer, ça ne va pas, etc. Je vous demande si vous pouvez me prêter 40 dollars. Alors je dis, bon, d'accord. Je lui ai fait signer un papier. Ah, je vous rendrai ça dans un mois ou deux au maximum. Bon, il y a des années maintenant, hein. Voleuse! Il y en a d'autres qui sont venus vers moi, même des hommes, des serviteurs de Dieu, que je connais bien, qui vivent encore aujourd'hui. Prêtez-moi une somme de temps. Bon, d'accord, j'ai confiance, je ne fais pas signer le papier. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Jamais on rembourse. Un beau jour, je le vois. Ben, dis donc, tu te souviens ce que tu m'avais demandé de te prêter? Ah, mais je croyais que vous alliez me le donner. Ah, mais moi j'ai répondu, mais c'est vous qui avez demandé d'emprunter, c'est pas moi qui ai dit que c'était pour prêter. Donc je m'attendais à ce que vous honoriez votre parole. Comment prêchez-vous aux autres si vous n'êtes pas capable d'honorer votre parole? Aussi, désormais, je prête à personne. Pourquoi? Parce que quand on prête, on ne les voit plus ici. Moi je leur dis, je préfère que vous veniez à l'église, alors je ne vous donne rien. Je ne vous prête rien. Si je veux faire un matabiche, ça me regarde. Mais pour vous prêter, non. Celui qui ne paye pas ses dettes, c'est un voleur. C'est tout. Il doit honorer sa parole. Vous ne pouvez pas rembourser, d'accord. Mais alors venez voir celui auquel vous devez l'argent. Et dites-lui, donne-moi un peu de temps. Je vais te rembourser morceau par morceau. Je vais le faire, mais tu sais la difficulté dans laquelle je suis. C'est de la bonne volonté. Une bonne volonté qu'on honore. D'accord, je te donne du temps. Mais trop souvent, au lieu de faire cela, on fuit et on ne veut plus voir les personnes auxquelles on doit de l'argent. Vous devez de l'argent au centre médical de la Borne, par exemple. Il y en a un bon paquet qui doivent. On doit envoyer quelqu'un à votre porte pour chercher l'argent. Et encore, on ne veut pas payer, on se fâche. Pas si longtemps, on a envoyé quelqu'un, eh bien, il n'a rien rapporté de retour. L'Église est riche. L'Église doit payer. Ah bon? Et qui c'est qui va payer le personnel? Et qui c'est qui va payer les médicaments? De même avec l'école de la Borne. Vous envoyez vos enfants? Vous voulez des enfants? Soyez responsable de vos enfants. Soyez responsable. C'est pas moi qui ai voulu que vous ayez des enfants, c'est vous qui avez voulu. Et vous en avez voulu même 5, 6, 7, 8, 9. Alors soyez responsable. Ce n'est pas à l'Église à élever vos enfants et à payer pour vos enfants. Mais voilà, on les met à l'école de la Borne et on s'attend que l'Église paye. Voleur! On n'a pas payé l'année passée et maintenant, toi, comme ça chauffe un peu, on paye un petit peu pour calmer un peu. Mais on n'a encore rien fait. Il y a des membres de la Borne qui font ça. Eh bien, c'est une honte, vous l'entendez? Soyez responsables de ceux que vous avez mis au monde. Et priez Dieu pour qu'il vous aide. Parce que l'école, vos enseignants, c'est vous qui les payez. Ce n'est pas l'Église. L'Église a une autre tâche. L'Église doit répandre l'Évangile et gagner les âmes à l'extérieur. Ce n'est pas la caisse de l'Église qui va payer votre Minerval. Nous devons être des gens responsables. Et peut-être même des fois, vous pouvez payer, mais vous ne le faites pas. Alors vous êtes des voleurs. Nos finances doivent être sous le contrôle du Saint-Esprit. Et nous devons glorifier le Seigneur à travers nos finances. Et tout faire pour nous dégager de nos obligations. Nous avons des obligations envers Dieu et nous avons des obligations envers notre prochain. Et en ceci, nous nous engageons dans le témoignage que nous laissons derrière nous. Sommes-nous des vrais chrétiens? Sommes-nous de ceux dont la conscience est sensible? Comment gérons-nous notre vie? Comment gérons-nous les biens que Dieu a mis à notre disposition? Faisons-nous produire ces biens pour que d'autres puissent par là avoir une vie meilleure, un travail, une vie plus facile? Ou vivons-nous que pour nous-mêmes? Dans Proverbes 11, 24, je vais bientôt finir mes frères, il est dit, « Tel qui fait des largesses devient plus riche, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Sagesse. Faisons fructifier le bien commun afin que tous puissent y trouver leur compte. Et soyons sobres en ce qui concerne notre bien personnel. Comme je l'ai dit, Dieu n'est pas contre la richesse, mais Dieu est contre la richesse gaspilleuse, vantarde, orgueilleuse, dominatrice. Et comprenons que tous nos biens appartiennent à Dieu. Il arrive trop souvent que la croissance économique se fait sur le dos de quelques-uns ou d'une partie de la population. La croissance économique se fait au détriment de celui qui est pauvre. Certains s'appauvrissent à cause de l'enrichissement et du profit trop grand et trop rapide. D'autres qui sont égoïstes et ne pensent qu'à eux-mêmes. Personne ne vit pour lui-même. Nous vivons tous pour les autres. Mais nous devons penser à celui qui n'a pas les privilèges que nous avons. Tu ne voleras point. Et ceci clôture ces quatre messages sur ce thème du huitième commandement. Frères et sœurs, je vous en supplie, ça c'est la vérité. Mettez-la en pratique. Examinez votre cœur. Pendant ces dernières réunions, je n'ai pas fait d'appel spécial parce que j'estime que chacun doit avoir une conscience et dans sa conscience, lui-même doit se mettre en règle devant Dieu. Je ne suis pas là pour exposer les bavures et les sottises de plusieurs, mais je suis là pour vous appeler à la repentance et à un changement radical de votre vie. Mais nous restons à votre disposition, frères et sœurs, pour parler avec vous, pour prier avec vous, pour vous aider, afin que vous soyez véritablement des citoyens du royaume des cieux. Fermons nos yeux. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que ta parole, Seigneur, nous exhorte. Même certaines fois, elle nous parle durement et sèchement. Certaines fois, elle nous met devant nos responsabilités, Seigneur. Des responsabilités que nous avons négligées. Nous pensions que nous étions des chrétiens, nous t'aimions et nous étions là à chanter des cantiques. Mais la réalité de la vie de tous les jours n'y était pas. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous et réveille-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ce que c'est que le royaume des cieux. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la lumière et à penser à celui qui n'a pas, à aider. Aide-nous aussi d'avoir de la modestie. Merci, Seigneur, parce que tu permets que nous ayons des biens, même au-delà de ce qui nous est nécessaire. Mais aide-nous à ne jamais oublier que tout cela est à toi et non pas à nous. Et tu nous appelles à le gérer pour ta gloire. Merci Seigneur pour l'enseignement que tu nous as donné encore ce matin. Et nous te demandons de bénir ces offrandes et ces dîmes. Il est vrai Seigneur que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas grand-chose. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être des égoïstes et nous voulons donner ce qui est pour toi, ce qui est à toi, cette dîme, cette dixième partie de nos bénéfices, de notre revenu. Mais Seigneur, nous voulons aussi donner nos offrandes parce que nous t'aimons et nous savons que tu es le Dieu qui nous fera prospérer si nous marchons dans l'honnêteté, dans la droiture, dans la vérité, au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.